VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 18 octobre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord, les titres. Des centaines de morts dans un hôpital de Gaza. Israël et Palestiniens se rejettent la responsabilité après un tir sur cet hôpital. Le président américain Joe Biden arrive aujourd'hui en Israël. Le sommet d'Amman avec trois leaders arabes remis inédit. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, la plupart des ministres reconduits. Au Burundi, le président d'un parti d'opposition écroué pour avoir critiqué le pouvoir. Ici à Washington, le républicain Jim Jordan n'a pas été élu au premier tour, président de la Chambre des représentants. Un autre tour est prévu aujourd'hui. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président américain Joe Biden a fait part mardi de ses plus profondes condoléances pour les vies innocentes perdues dans l'explosion dans un hôpital à Gaza et il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il s'est également entretenu à ce sujet avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le roi Abdallah II de Jordanie, a fait savoir la Maison-Blanche. Mais le président américain ne s'est pas prononcé sur l'origine du tir qui a provoqué la mort d'au moins 200 personnes alors que le Hamas l'impute à Israël et que l'armée israélienne accuse, elle, le djihad islamique qui de son côté dément et accuse Israël. Le point avec Jean-Roger Bion.
Joe Biden s'est dit mardi, dans un communiqué officiel, indigné et profondément attristé par l'explosion dans un hôpital de la ville de Gaza et par les terribles pertes qui en ont résulté. M. Biden a quitté mardi soir Washington pour Israël. Le sommet qu'il devait avoir ce mercredi en Jordanie avec le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été reporté sine die, a annoncé le ministre jordanien des Affaires étrangères après le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza. M. Biden promet d'être en contact dans les prochains jours avec les trois dirigeants arabes. Selon le ministre jordanien Ayman Safadi, le sommet se tiendra lorsque la décision d'arrêter la guerre et de mettre fin à ces massacres sera prise. Le djihad islamique a qualifié mercredi de mensonge les accusations d'Israël qui lui a attribué le tir contre un hôpital de Gaza. Selon ce mouvement, l'hôpital avait été sommé par Israël d'évacuer sous la menace d'un bombardement et c'est une bombe larguée par un avion de l'armée israélienne qui a causé la tragédie. L'armée israélienne a pour sa part affirmé que c'est une roquette du djihad islamique qui est tombée sur l'hôpital à la suite d'un tir raté. Nous allons dans les prochaines heures fournir les preuves de nos affirmations, a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne. Le tir a fait au moins 200 morts selon le Hamas, autre mouvement palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza qu'il a également attribué à l'armée israélienne.
Merci Jean-Roger. Le tir sur l'hôpital a suscité de nombreuses réactions condamnant Israël, notamment de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de la Ligue arabe, de l'Union africaine, de l'Iran et de la Turquie. Eric Manirakidza.
Des manifestants ont pris les rues en Cisjordanie occupée, à Amman et Tunis. Le gouvernement mauritanien a décrété mardi trois jours de deuil national et appelé la communauté internationale à imposer un arrêt immédiat de ce qu'il a appelé un génocide. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit mardi soir horrifié par les centaines de civils palestiniens tués, condamnant avec force le tir sur l'hôpital, mais sans en imputer la responsabilité. À la demande de la Russie et des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mercredi une réunion d'urgence et se prononcera juste avant sur une résolution portée par le Brésil pour tenter de trouver une position commune sur la guerre entre Israël et le Hamas. Cette réunion est prévue à 14 heures en temps universel, selon l'ONU. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël, plus de 3000 personnes, en majorité des civils, dont des centaines d'enfants, ont été tués, selon les autorités locales palestiniennes. Et plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils le jour de l'attaque du Hamas, qui a aussi enlevé 199 personnes, selon l'armée israélienne.
Ajoutons que le président français Emmanuel Macron a condamné le tir sur l'hôpital et a souligné que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Il a également appelé à l'ouverture sans délai de l'accès à la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. De son côté, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déploré qu'une nouvelle fois, des civils innocents paient le prix le plus élevé. La responsabilité de ce crime doit être clairement établie et ses auteurs devront rendre des comptes, a-t-il déclaré.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, la plupart des ministres ont été reconduits lors de la nomination du gouvernement de 32 membres, dirigé par le nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui hérite également du portefeuille des sports, à 3 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Rosine Monezero.
Le chef du gouvernement, nommé lundi en remplacement de Patrick Hachi, prend aussi le poste de Paulin Daron, ministre des Sports sortant, selon un décret lu par le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé. Monsieur Begré-Mambé est nommé chef du gouvernement, mais la composition du gouvernement n'a pas été bouleversée et une large majorité des principaux portefeuilles restent aux mains de leurs précédents titulaires. Tene Birahima Ouattara, frère du président Alassane Ouattara, conserve le ministère de la Défense, tout comme Kobenan Kouassi Adjoumani reste à l'agriculture. Takou Ouadja Léon Adon, jusqu'ici ministre délégué aux affaires étrangères, est promu titulaire du portefeuille en remplacement de Kandia Camara, élue présidente du Sénat. Le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan Bertin, alias Kakabé, transfuge du PDCI, n'a pas été reconduit. La prochaine présidentielle est prévue fin 2025 en Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara n'a pas encore indiqué s'il comptait ou non briguer un quatrième mandat.
Au Burundi, le chef d'un petit parti d'opposition a été placé en détention hier après avoir critiqué le gouvernement sur les médias sociaux, selon une source judiciaire. Le point avec Alexandrine Rollogno.
Stéphane Ibizi, président du Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi, Codebu, était détenu à la prison centrale de Bujumbura, accusé de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Vendredi, son parti a publié un commentaire critique sur le gouvernement à l'occasion du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis, roi Gazoré. Le texte dit, je cite, « Au moment où le Burundi croupit dans une misère sans précédent à cause d'un leadership défaillant, le parti Codebu invite la population à ne pas céder à la résignation et à suivre l'exemple du prince Louis, roi Gazoré. » Fin de citation. La vice-présidente du Codebu, Jacqueline Hatungimana, a appelé à la libération de Nibizi, affirmant que les commentaires ne justifiaient pas son incarcération. Son arrestation intervient alors que l'ancien Premier ministre limogé, Alain Guillaume Bunyoni, est jugé pour atteinte à la sécurité nationale et insulte au président de la République.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Candidat à la présidentielle de février 2024, M. Sonko accuse le président Macky Sall, qui s'en défend, de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. M. Sall a annoncé début juillet qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Ici aux États-Unis, toujours pas de speaker à la Chambre des représentants, l'élu républicain de l'Ohio, Jim Jordan, lieutenant de l'ex-président Donald Trump, n'a pas réussi à se faire élire hier président de la Chambre basse lors du premier tour. Un deuxième vote est attendu ce mercredi, Yacouba Ouédraogo.
Après de nombreuses tractations, Jim Jordan, membre de la frange la plus conservatrice du parti, reste le seul candidat républicain en lice. Hier, Il n'est pas parvenu à décrocher le soutien d'assez de ses pairs pour accéder au perchoir lors d'un vote en séance plénière. 20 élus républicains, principalement des modérés qui reprochent à M. Jordan des positions trop extrêmes, ont voté contre sa candidature. Élu au Congrès en 2006, Jim Jordan n'a jamais réussi à faire adopter la moindre proposition de loi à son nom. Et il est, selon plusieurs classements, considéré comme l'un des élus les moins productifs de la Chambre. Cette élection pourrait toutefois s'étaler sur plusieurs jours. Le speaker républicain destitué Kevin McCarthy avait dû batailler durant 15 tours et faire beaucoup de concessions pour accéder au perchoir en janvier dernier. La Chambre des représentants n'a plus de président depuis la destitution historique de Kevin McCarthy le 3 octobre, la privant de ses principaux pouvoirs, y compris l'adoption de lois. Pendant ce temps, le président Joe Biden va réclamer une enveloppe commune de 100 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël, Taïwan et la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, selon ce qu'une source proche du dossier a confié à l'AFP.
La Minute Éco, Rosine Munezero.
L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo va déployer la technologie mobile G3 dans 184 zones du pays, a indiqué l'agence Ecofin. En apportant la 3G dans ces nouvelles localités, c'est au moins 250 000 habitants qui pourront être connectés aux services télécoms à haut débit. Le gouvernement rwandais et SoftBank Corp Tokyo ont annoncé avoir testé avec succès le fonctionnement d'une charge utile de communication 5G exclusive de SoftBank depuis la stratosphère le 24 septembre 2023. La charge utile était embarquée sur un prototype de véhicule aérien sans pilote solaire de type plateforme de haute altitude. La société Finland Green Energy, basée à Dublin, et sa filiale sud-africaine Solar Capital souhaitent construire une usine verte de production d'électricité à partir d'ammoniac dans la province du Cap-Occidental. Cette annonce intervient alors que le pays, qui dépend toujours des centrales à charbon pour son approvisionnement électrique, s'est engagé à passer progressivement aux sources d'énergie propres. Le programme de la Chine des nouvelles routes de la soie est un gigantesque projet de construction d'infrastructures de transport à travers le monde. D'un montant de 2 000 milliards de dollars, il a été lancé il y a 10 ans sous l'impulsion du président Xi Jinping, qui accueille ce mercredi à Pékin un forum avec les représentants de 130 pays.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les sélections africaines ont bouclé hier une série de matchs amicaux.
Oui, deuxième défaite de suite pour le Ghana après s'être incliné à Charlotte contre le Mexique. Les Black Stars ont été corrigés par leur hôte de la Team USA 4-0, cette fois-ci à Nashville. De son côté, partageant le même groupe D de la CAN 2023 avec l'Algérie et l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie se sont affrontés en amical à Casablanca, victoire des étalons 2-1. Comme face au Maroc, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par l'Afrique du Sud, 1-1. Même score entre le Gabon et la Guinée. Le Maroc, lui, jouait pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions de l'Atlas ont dominé le Libéria 3-0 à Agadir. Pour sa part, la RDC est restée muette devant l'Angola, 0-0.
En Europe, l'Angleterre s'est qualifiée pour l'Euro 2024.
L'Angleterre sera de la partie en Allemagne en 2024 grâce à sa victoire 3-1 à Wembley contre l'Italie. Les Anglais prennent au passage leur revanche sur la nationale League 2 ans après la finale de l'Euro perdue en 2021. Dans ce même stade de Londres, les vice-champions d'Europe sont assurés de terminer en tête de leur groupe de qualification avant même les deux dernières rencontres de novembre. La situation se complique en revanche pour l'Italie, troisième derrière l'Ukraine, qu'elle affronte en clôture des qualifications le 20 novembre.
Rugby, l'Afrique du Sud dit être concentrée sur la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre.
C'est ce qu'a affirmé le directeur des Springboks, Raisi Erasmus, estimant que penser à une éventuelle finale contre la Nouvelle-Zélande est irrespectueux. Vainqueur de la France 29-28 en quart de finale, l'Afrique du Sud, championne en titre, apparaît comme favorite pour se qualifier pour la finale du 28 octobre. Les All Blacks affrontent l'Argentine lors de la première demi-finale vendredi. L'ouvreur André Pollard, qui a conduit l'Afrique du Sud au sacre en 2019 en marquant 22 points lors de la victoire finale 32-12 contre l'Angleterre, a été rappelé pour pallier le forfait de Malcolm Mars.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Joe Biden arrive donc aujourd'hui en Israël. Le sommet qu'il devait avoir ce mercredi en Jordanie avec le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été reporté sine die, a annoncé le ministre jordanien des Affaires étrangères. Après le tir meurtrier sur un hôpital de Gaza, la visite de M. Biden en Israël a pour objectif de réaffirmer la solidarité des États-Unis avec leurs proches alliés et son soutien aux appels en faveur d'une solution à deux États. Eric Manirakidza a joint en France Leila Shahid, ancienne déléguée de l'OLP en France et dans l'Union européenne.
Écoutez, dans toute la Palestine, même si le lieu est la bande de Gaza, mais ce qui se passe est tellement représentatif du déni de l'existence d'un peuple palestinien, de ses droits, de la justice. C'est une tragédie absolue. Je ne sous-estime pas la tragédie des familles israéliennes qui ont perdu des siens dans les kibboutzim autour de Gaza. Je ne sous-estime pas combien le traumatisme est grand pour les civils israéliens, parce que les militaires, eux, ils font partie de l'armée occupante depuis 56 ans. Mais ce qu'ils appellent l'éradication de la bande de Gaza est littéralement une folie. On ne peut pas éradiquer un mouvement de résistance militaire. On ne peut pas éradiquer le Hamas, qui, même si ce n'est pas le parti politique pour lequel je vote, fait partie de la société palestinienne. Et je trouve que c'est une tragédie immense.
Le déplacement du président Biden, c'est pour éviter l'escalade. Selon vous, quelle est la solution durable pour qu'il n'y ait plus de guerre dans cette région?
La seule solution réellement doit être politique, elle ne peut pas être militaire. Il est évident que Israël est une puissance nucléaire. Israël a 200 têtes nucléaires. Est-ce que ces 200 têtes nucléaires lui ont amené la paix? Est-ce qu'elle a vraiment pu faire la paix avec la Palestine, le Liban, la Syrie? Elle a fait la paix, mais disons très formelle, avec la Jordanie et l'Égypte. Elle a pensé que ce serait bien d'aller faire la paix avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, qui ne sont pas en guerre avec elle. L'élément principal pour amener la paix en Israël, c'est vraiment le peuple palestinien et les représentants palestiniens. Ça fait 30 ans que nous avons négocié les accords d'Oslo, où nous avons reconnu Israël. Nous avons demandé un État palestinien sur 23% de ce qu'était la Palestine mandataire et nous n'avons eu aucun soutien réel.
C'était Leila Shahid, l'ancienne déléguée de l'OLP en France et dans l'Union européenne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, les exploitants de Wi-Fi Zone sont de mauvaise humeur. Ils protestent contre la décision de l'autorité de réglementation des communications électroniques d'encadrer leurs activités avec le paiement d'une déclaration. Les associations des consommateurs montent au créneau et demandent au gouvernement de surseoir momentanément à la décision. De Lomé, notre correspondant Kossou Oussou.
Accusés par les jeunes qui tiennent les points de vente de connexion Wi-Fi, appelés Wi-Fi Zone, de vouloir les priver de leur activité génératrice de revenus, en exigeant désormais le paiement d'une déclaration de 100 000 francs CFA, l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes se défend. Kadiri Ourobangdan, le directeur des affaires juridiques et de la protection des consommateurs à l'ARCEP.
En réalité, ce n'est pas la décision qui fixe le montant de la déclaration. Le montant de la déclaration est fixé par un décret. Il est dit que quand on est fournisseur de services à valeur ajoutée, ben, toutes les activités qu'on fait autour de l'activité de réseau, on doit se déclarer. Et vous devez faire cette déclaration qui coûte 100 000 francs.
Pour les exploitants de Wi-Fi Zone, la décision de l'ARCEP n'est pas la bienvenue. Michael Agbonigan, le président de l'Association nationale des opérateurs de Wi-Fi Zone, pense que cette situation va impacter la consommation d'Internet des populations, d'autant que les offres de souscription spéciale pour le profil des Wi-Fi Zone du principal fournisseur d'accès du pays ont subi une hausse considérable.
Les opérateurs de Wi-Fi Zone amènent l'accès à Internet pour un individu à 3 000 francs, 2 500 par mois, ce qui est à la portée de la grande majorité des Togolais. On a commencé cette activité avec une offre qui a une valeur de 30 000 francs CFA. Et aujourd'hui, on augmente l'offre à 75 000 francs. Mais ce n'est pas les opérateurs de Wi-Fi Zone qui en souffrent, c'est la population qui paiera les pots cassés. Parce que nous allons augmenter l'offre. Donc, on n'est pas en train d'aider les gens à avoir accès à Internet à moins de coûts.
Les associations des consommateurs haussent le ton, tout en exigeant une baisse conséquente du coût de la connexion Internet afin de permettre au plus grand nombre d'en disposer. Benetti Gagalo, vice-président de l'Association togolaise des consommateurs, interpelle le gouvernement.
Nous demandons au gouvernement la suspension temporaire de la décision de l'ARCEP, la mise en place d'un comité interministériel pour approfondir les réflexions portant encadrement de l'activité de Wi-Fi Zone au Togo. L'ATC demande aussi qu'un moratoire soit accordé aux acteurs de l'écosystème numérique togolais afin que ceux-ci mutualisent leurs efforts pour une baisse considérable du coût de l'Internet sur le territoire national.
L'Association nationale des opérateurs de Wi-Fi Zone, quant à elle, appelle tout simplement à la relecture des textes de loi relatifs au secteur.
Nous interpellons l'Assemblée nationale à revoir dans les brefs délais les textes de la loi sur les communications électroniques. Aussi, nous souhaitons interpeller l'exécutif togolais à se pencher sur la question.
Pour le moment, l'autorité de réglementation leur donne 3 mois pour se conformer à la loi. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, la première édition de la Foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales s'est tenue le week-end dernier à Ouagadougou. Plusieurs dizaines d'exposants ont pu prendre part à l'événement et assurent avoir fait de bonnes affaires. De la capitale burkinabé, Lamine Traoré.
Nous sommes dans l'un des pavillons du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Au moins une soixantaine d'exposants sont ici à la Foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou. Les fournisseurs d'équipements médicaux, les distributeurs de produits d'entretien et de cosmétiques, les écoles de formation, les centres de recherche, tous sont présents. Parfait Zombré est un ingénieur médical à l'entreprise Réa Express.
Et nous sommes dans le volet du labo, voilà, que ce soit les réactifs, les consommables et puis les équipements du labo. Voilà, on fait aussi les petits matériels médico-techniques. Voilà, ça soit table d'accouchement et les lits d'hospitalier, les chariots d'anesthésie et aussi les aspirateurs. Ça, c'est le bloc. Voilà, donc bon, c'est un mélange de tout, hein. On fait un peu de tout.
Marie-Olga Sawadogo représente la compagnie Vestige Marketing.
Nous exposons tous nos produits et nos produits, c'est très varié parce qu'en fait, Vestige Marketing, c'est comme un hypermarché avec plus de 300 produits. Vous voyez, allant des compléments alimentaires jusqu'aux produits de maison, vous avez les diététiques, vous avez les produits bucco-dentaires, vous avez donc les cosmétiques.
Il était important de créer un tel cadre. Barthélémy Zoma, président du comité d'organisation de la Foire internationale d'exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales.
L'initiative de la Foire vient des distributeurs de biens de santé à travers une union des distributeurs de biens de santé dont je suis le secrétaire général. Et cette initiative vise à permettre aux différents distributeurs de faire connaître leurs produits aux praticiens et la foire permet de regrouper sur le même plateau les distributeurs de biens de santé, les praticiens qui les utilisent et aussi les décideurs qui ordonnent les dépenses et les arbitres.
Il y a eu en plus des expositions, des conférences scientifiques, des débats et panels ont permis de dégager des recommandations pour les éditions à venir. Si la foire a enregistré une soixantaine d'exposants, elle a drainé au moins 1000 visiteurs. La prochaine édition est fixée à octobre 2024. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Au Tchad, l'OMS s'inquiète de la situation sanitaire des réfugiés soudanais et des Tchadiens rapatriés qui sont dispersés dans 4 provinces de l'est du pays. Sur de nombreux sites de transit, ces réfugiés et rapatriés vivent dans des conditions propices à la propagation de maladies. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Ces réfugiés font une pression énorme sur le système de santé, lequel système de santé, comme dans beaucoup de pays africains, est déjà très faible.
Jean Bosco Ndiokoubayo, représentant de l'OMS au Tchad.
Il faut plus de personnel pour soigner tous ces réfugiés-là, il faut plus de médicaments, il faut plus d'infrastructures. Avec cette pression des réfugiés, mais aussi avec les populations autres qu'il ne faut jamais oublier, nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont dans le besoin de soins de santé de base. C'est énorme. Nous avons dans cette crise à peu près 3125 blessés de guerre au dernier chiffre. Et ces blessés de guerre sont soignés dans des cliniques mobiles à Adré. Et ce qu'on ne peut pas soigner à Adré, on envoie à Béché où nous avons une équipe de chirurgiens qui travaillent avec les chirurgiens nationaux pour opérer sur les cas qui sont référés à Adré où on ne peut pas, bien sûr, les soigner.
Pour les autorités sanitaires, cette situation inédite et inattendue, marquée par une déferlante humaine dans l'est du Tchad, a causé assez de difficultés au personnel soignant.
En réalité, l'hôpital de district était beaucoup plus préparé pour prendre en charge une population d'environ 100 à 150 000 habitants. La population a été multipliée pratiquement par 4.
Dabsou Guédabsou, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Pour lui, le gouvernement tchadien a mis à la disposition des districts concernés des ressources humaines et des médicaments pour appuyer l'équipe afin de soulager les réfugiés et populations autochtones.
En tout, 1359 agents toutes catégories confondues sont en train d'être recrutés qu'on va déployer dans les jours à venir dans ces provinces-là pour pouvoir soulager un peu les souffrances du personnel qui est sur place.
Cette situation a occasionné plusieurs cas de malnutrition dans l'est du Tchad. Sur les 8 districts des 4 provinces touchées, plus de 68 000 cas de malnutrition aiguë modérée et plus de 36 000 cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés. Pour le représentant de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndiokoubayo, un enfant atteint par la malnutrition est très vulnérable.
Un enfant qui ne mange pas bien est immunodéprimé systématiquement. Et quand on est immunodéprimé, évidemment, les autres maladies en profitent. Les maladies opportunistes, vous devenez beaucoup plus vulnérable au paludisme, aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et vous devenez par-dessus tout très vulnérable à la rougeole.
Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guédabsou, donne la statistique des cas de décès liés à la malnutrition.
On déplore malheureusement 157 décès. Parmi ces décès, il y a 113 enfants qui sont décédés de suite de malnutrition qui devient la première cause de mortalité chez les enfants. On déplore également le décès de 27 femmes, soit liées à des complications de grossesse ou pendant l'accouchement, ou encore les complications liées aux suites d'accouchement.
Des séances de dépistage pour les enfants de moins de 5 ans ont été organisées pour identifier les enfants malnutris et des intrants ont été déjà prépositionnés dans les différents sites pour une prise en charge adéquate. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Djoumbé Hamza. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.